Je vais commencer de la manière suivante, en précisant comment, avec Roland Guagou, cette fois, nous concevons la formation. Donc, juste pour dire un peu qui je suis, parce que finalement, vous dites... Voilà, j'ai été institutrice pendant longtemps. Ensuite, j'ai fait une thèse en psycho, ça, je vais en parler. Et puis ensuite, j'ai été maître de conférence à l'UFM de Lyon. Et ensuite, professeur associé à l'Université de Genève. Et je viens de regagner mon pays natal depuis... Et ma ville natale, d'ailleurs, depuis la rentrée, puisque je suis maître de conférence à l'UFM d'Auvergne depuis la rentrée. Voilà. Donc, conception de la formation... On voit qu'il y a deux manières de concevoir la formation des enseignants, et donc je vais présenter celle avec laquelle je suis en profond désaccord pour aller présenter ensuite celle avec laquelle je m'accorde avec moi-même. L'idée est la suivante, c'est qu'au fond une formation pourrait être l'exposé des résultats de la recherche qui participerait à modifier les conceptions des enseignants, modification des conceptions qui amènerait les enseignants spontanément à transformer leur manière de faire et leur pratique d'enseignement dans un souci de rationalité. Et je considère avec Roland Guagou que cette manière de concevoir la formation professionnelle est insuffisante dans la mesure où on compte sur les enseignants pour faire tout le travail de transposition des résultats de la recherche à l'intervention, et ce que je crois profondément impossible, et notamment parce que beaucoup trop difficile pour des enseignants. Je vais m'en expliquer à présent. Donc, je supprime cette conception et je précise la nôtre. Notre conception de la formation est la suivante. C'est l'idée qu'il conviendrait d'agir directement sur les pratiques. En agissant directement sur les pratiques, on proposerait aux maîtres de nouveaux outils qui sont cohérents avec les résultats de la recherche, mais qui sont également cohérents avec leurs pratiques habituelles. Autrement dit... On ferait nous-mêmes, en tant que chercheurs, le travail de transposition des résultats de la recherche en savoir pour l'action et en activité, et en prenant soin de coller à leurs pratiques habituelles pour éviter que nos propositions soient si éloignées de leur savoir-faire, de leurs habitudes de travail, qu'elles finissent, comme beaucoup, dans les placards ou pour caler l'armoire normande. Et notre hypothèse, c'est que, à travers la mise en œuvre de nouveaux outils, qui sont en partie différents de ce qu'ils font habituellement, mais aussi en partie très semblables, alors on va transformer le pouvoir d'agir des enseignants, et c'est ce pouvoir d'agir-là qui va transformer leur conception et qui va être un vecteur de formation et de développement professionnel. Et donc c'est autour de cette conception de la formation que j'ai organisé toute ma matinée. Je sais que dans la salle, il n'y a pas que des formateurs. Je pense que ça devrait pouvoir jouer, comme on dit en Suisse. Voilà, j'en ai fini avec cette première présentation. Et je poursuis en disant comment, avec Roland Guagou et Jean-Louis Paour, nous avons imaginé la conception d'un instrument didactique et comment nous nous y prenons pour faire opérer ce travail. Eh bien, nous opérons une triple analyse a priori qu'on trouve ici, c'est-à-dire que pour concevoir nos instruments didactiques et pédagogiques, nous nous intéressons d'abord au savoir et au savoir-faire requis, impliqués dans l'activité qui nous intéresse. Si je prends l'exemple de Phono, nous nous intéressons au savoir et savoir-faire requis pour développer la conscience phonologique et nous nous intéressons aussi et surtout aux caractéristiques du développement ordinaire de l'enfant, c'est-à-dire par quelles étapes il passe habituellement et quelles sont les compétences qu'il convient de lui enseigner et surtout dans quel ordre. Et c'est là qu'on voit comment nos propositions pédagogiques s'inscrivent dans le savoir-faire des maîtres parce que tous les enseignants de maternelle travaillent la conscience phonologique. Ce que Phono apporte comme supplément, c'est l'idée de cette progression, c'est-à-dire comment ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comment éviter que les enseignants proposent une analyse phonémique avant d'avoir proposé une analyse syllabique. Bref. Au fond, ce qu'on leur offre, c'est une progression développementale cohérente avec les travaux de recherche portant sur le développement de l'enfant. Donc ça, c'est ce qui touche les savoirs et savoir-faire. On s'intéresse aussi aux élèves, deuxième pôle, et là, on va du côté des élèves les moins performants du système éducatif. On cherche quelles sont les difficultés les plus fréquentes qu'ils rencontrent dans la construction, et je donne l'exemple de la conscience phonologique, pour éviter de laisser les élèves sur le bord de la route. Donc une analyse des savoirs et savoir-faire, une analyse des caractéristiques des élèves les moins performants, de leur manière d'apprendre. Et dernière chose, une analyse du travail habituel des professeurs, c'est que font-ils habituellement, sans nous, quand ils enseignent la conscience phonologique. Et là, on arrive à attraper de très bonnes tâches, mais qu'on va organiser un peu autrement pour être au service du développement des élèves. Et on constate, par exemple, alors ça je vous raconte l'anecdote, et puis à partir de cette triple analyse, on va concevoir un premier instrument didactique. Je vais reprendre l'exemple de Phono. Quand on a conçu Phono la première année, on l'avait prévu pour qu'il soit utilisé en petits groupes. Et on l'a mis dans les mains de 100 enseignants qui ont testé pour nous Phono, premier module. Quand on a retrouvé les 100 enseignants, auxquels on s'était adressé, les 100 nous ont dit, nous, en petits groupes, jamais. C'est infaisable, on l'a jamais fait. On fait déjà beaucoup de choses en atelier. Si vous nous demandez en plus de faire la conscience phonologique en petits groupes, on ne fera pas. Donc, compromis entre eux et nous, on décide de proposer Phono en grand groupe. Et en même temps, en leur disant, attention, vous connaissez certains de vos élèves de votre classe qui sont plus à risque que d'autres. Je me méfie de ce terme à risque par les temps qui courent. Donc, ils sont plus en difficulté que les autres et partant, qui ont besoin d'une attention plus particulière. Et ce qu'on a vu chez les enseignants auxquels on a donné le deuxième prototype, c'est qu'ils ont suivi le conseil qu'on leur donnait, c'est-à-dire pour cela, plutôt que d'imaginer une remédiation après l'enseignement collectif, imaginez plutôt une prévention. C'est-à-dire qu'avant de proposer l'activité phono en collectif, prenez donc ces élèves que vous savez plus en danger que les autres, plus fragiles que les autres, pour reprendre l'expression de Mireille Brigaudiot, et préparez ça avec eux. Et ça, ça a marché. C'est-à-dire que ça n'est pas 4 groupes, mais bien 2, le groupe des élèves les moins performants, qui sont pris en amont, et le groupe classe, qui est prêt après. Ça va ? Donc, premier prototype, deuxième prototype. Une fois qu'on a testé ce deuxième prototype avec d'autres enseignants, eh bien, on publie l'affaire. À ce jour, nous en sommes là. Alors, nous en sommes là. Et si je dis ça, c'est que je voulais dire combien, dans mon itinéraire de chercheuse, j'ai décidé pour toujours de consacrer mon activité de recherche à rendre à César ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire à faire profiter l'éducation nationale de l'argent qu'il a dépensé pour moi pendant que je faisais mes études. Voilà. Donc, mon activité de recherche est essentiellement consacrée à la conception d'outils pour les enseignants et peu pour la publication dans des revues. Voilà. C'est un choix politique. Donc, ça, c'est ceux qui sont déjà en vente. Comme vous voyez, je le précise à chaque fois, tous les droits d'auteur sont reversés à une ONG, Inter-Aid, qui scolarise les... Et tous les droits d'auteur vont dans un projet qu'Inter-Aid mène à Madagascar, Antananarive notamment, sur la scolarisation des élèves à l'école maternelle. Nous avons Lecteur Electrix Collège, qui sort en juin 2012. Donc, Lecteur Electrix pour les élèves de 6e à la 3e. Lectorino et Lectorinette, qui apparaîtra en juin 2013 dans nos rêves les plus fous. Lectorino et Lectorinette, c'est le petit frère de Lecteur Electrix qui s'adresse aux enseignants de CE1, CE2, qui est en cours d'utilisation, en cours de test chez les enseignants ordinaires, et il devrait paraître en juin 2013. Et puis Scripto. Et Scripto, c'est comme le nom l'indique peut-être pas, c'est un outil qui s'adresse aux enseignants d'école primaire, CE1, CM2, et qui vise à enseigner la copie et l'orthographe. Un outil pour apprendre à copier et à orthographier. Alors lui, il sort... Non, il est presque fini. Et puis, j'ai été sollicitée là tout de suite, maintenant, il y a tout à l'heure, là, sur Capisco. Vous avez vu, je ne l'ai pas mis, parce que Capisco, c'est la Arlésienne. Ça fait à peu près 10 ans que j'en parle, et 10 ans que je fais autre chose avant. Mais il avance. Capisco, c'est Lecteur Electrix, mais pour les maternelles. Donc vous avez compris que tout ce qui est en O est chez Atier, tout ce qui est en X lecteur, c'est chez Retz. Voilà. Retz, ouais, pour les autres. Donc je précise que tous ces outils ont été faits avec Roland Guagou, certains avec Jean-Louis Paour. Alors, la présentation que je vais faire ce matin à la demande de Patrick Picard, et c'est avec lui que j'ai raisonné ce titre, c'est peut-être un peu bouffon comme titre, alors c'est pour ça que j'ai mis ça. Itinéraire d'une enfant gâtée. C'est-à-dire qu'avec Patrick, on a eu l'idée de reprendre mon itinéraire de recherche. C'est peut-être très prétentieux, mais en tout cas, pourquoi cet itinéraire de recherche ? Parce que ça me permet de me reposer avec vous des questions que j'ai commencé à me poser en 1988. Je vous parle d'un temps. Et donc, de revenir sur des questions qui me paraissent toujours aussi importantes quand on parle d'éducation et d'enseignement à l'école maternelle. J'insiste pour dire que vous pouvez, qu'une fois que mon stress sera un peu tombé, je vais arriver à vous regarder. Parce que pour l'instant, vous avez vu que je suis toujours en train de regarder la moquette. Et que vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Je suis prête et j'ai très envie, évidemment, de discuter tout ça avec vous. Et j'ai beaucoup d'intérêt à avoir vos retours. Donc voilà, itinéraire d'une enfant gâtée, je l'ai dit, 1981, la belle année, école normale d'institutrice d'Aix-en-Provence, 1984-1997, institutrice en maternelle puis en classe spécialisée, comme vous pouvez l'entendre, à Marseille et en école classée en ZEP, c'est-à-dire que je n'ai jamais enseigné ailleurs qu'en zone d'éducation prioritaire, si après à l'UFM de Lyon et à l'Université de Genève. Mais voilà, en tant qu'instit, je n'ai jamais été qu'en maternelle et en classe spécialisée dans des écoles REP. Et en 1988, je me suis posé cette question, puisque j'étais en ZEP et qu'on avait beaucoup de conférences pédagogiques à l'époque, où on nous disait bien qu'il fallait donner plus à ceux qui avaient moins, mais je peinais à savoir ce qu'ils avaient en moins et surtout comment leur donner plus. Donc donner plus à ceux qui ont moins, c'était donner plus de quoi à ceux qui ont moins de quoi et le donner comment. Et j'avais pas et quand je travaillais dans l'école, je voyais des élèves normalement motivés, normalement présents, normalement au travail et des élèves qui en dépit de cette présence effective, active à l'école maternelle, se trouvaient toujours plus en difficulté que les autres aux évaluations nationales CE2, CM2, et je me disais que là, l'école maternelle n'avait pas fait tout ce qu'elle pouvait pour réduire les inégalités sociales d'acquisition. Et j'ai eu envie, pour moi-même, de répondre à cette question, notamment parce que je n'avais pas de problème de pratique pédagogique en tant que telle, je réussissais plutôt bien, mais je comprenais pas. Et donc j'ai eu envie de comprendre ce que je savais réussir. Ça va être le fil rouge de toute la matinée, cette distinction que je fais beaucoup entre réussir et comprendre. En l'occurrence, je me l'applique à moi-même sur cette question. C'était, je voulais comprendre ce que je savais réussir et comment je pourrais réussir au service des élèves et pas seulement au service de ma propre pratique professionnelle. Est-ce que c'est clair, ça? Après, je parle moins vite aussi. Je lève les yeux et je parle moins vite. 1989, première année d'études en psychologie. Je me suis demandé où est-ce que je pourrais trouver les réponses à mes questions. Et après prospection, je me suis dit que c'était la psychologie qui pourrait me donner les clés. 2000. Thèse de doctorat en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, Université d'Aix-Marseille. J'ai mis le temps. Alors, si j'ai le temps, mais je pense que je ne l'aurai pas, je dirais pourquoi j'ai mis autant de temps. Mais j'ai mis en place un programme d'éducation assez particulier dans ma classe en 1992. Un programme qui au fond intégrait toutes mes connaissances en psychologie et j'ai testé ses effets sur la scolarité ultérieure des élèves. Donc j'ai suivi une première cohorte d'élèves que j'ai auxquels j'ai proposé un programme particulier en grande section et j'ai suivi les effets de ce programme jusqu'à la fin du CE2 dans une première cohorte et puis j'ai répliqué l'expérience pour une deuxième cohorte. Ce qui explique que ma thèse, j'ai été obligée de les suivre pendant 5 ans, de les chercher là où ils étaient parce que la plupart déménageaient, donc il fallait que je les retrouve à Paris et ailleurs. Donc j'ai mis 6 ans pour faire cette thèse en fonction de mon sujet. Et j'essaierai d'en dire quelques mots des résultats par la suite. Donc un constat, une question, et la question que je me pose, que je me suis posée et que je continue à me poser, c'est quelle est la part que joue l'école, les enseignants, les pratiques des enseignants, les activités, les tâches, les méthodes, les outils et la formation des enseignants dans la production de la réussite scolaire des élèves qui ont le plus besoin que l'école leur enseigne ce qu'elle attend d'eux. Donc, quelle est la part que l'école peut jouer au service de la réduction des inégalités sociales? Force est de constater que cette question que je me posais en 88, elle est toujours très vive en 2012, et il me semble qu'elle le devient de plus en plus. Quand on regarde les évaluations menées par l'ADEP, par exemple, qui ont longtemps été un peu dissimulées, en tout cas dont les résultats n'ont pas été rendus publics très vite, eh bien, on voit qu'on a encore de quoi se poser cette question aujourd'hui. Certes, les conditions de vie des élèves se sont dégradées pour beaucoup, mais il n'empêche que... la question n'est pas neuve. Hein. Si on regarde ce que disaient Baudelot et Stablé dans les années 70, c'était cette idée que l'école aurait reproduisé, répliqué les inégalités sociales, je vous apprends rien. Eh bien, on voit qu'en 2012, c'est toujours le cas. Et je parle de l'évaluation CEDRE, par exemple, que vous connaissez. Non, une évaluation qui évaluait les élèves de CM1 en 2009 en comparant à une épreuve plus ancienne. Et ce qu'on constate, c'est que les différences entre élèves se creusent. Il se trouve, et puis on a la même chose sur l'évaluation qui s'appelle évaluation des performances des élèves à 20 ans d'intervalle. Ça concerne des élèves de CM2 qui en 87 et en 2007 ont passé strictement la même épreuve. C'est pas les mêmes élèves, hein, parce que sinon ça serait inquiétant. Et là, on s'aperçoit que quelles que soient les preuves qu'on a proposées, les performances des élèves sont moins bonnes en 2007 qu'en 1987, ce qui en soi est inquiétant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que les élèves de milieux favorisés, eux, n'ont pas vu baisser leurs performances. Et ceux qui sont touchés par cette baisse, ce sont les élèves de milieux populaires. Donc voilà pourquoi la question que je me posais en 88 est toujours d'actualité. Et autre question, évidemment, c'est essayer de comprendre les mécanismes par lesquels l'environnement social, familial et scolaire influence la cognition en développement. Autrement dit, ça sert finalement la déclinaison de ce que je dis plus haut, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir à l'école maternelle compte tenu de l'environnement social de l'élève. Et j'insiste pour dire que pour moi, l'environnement social intègre l'école. Quand je parle d'environnement social, je ne considère pas seulement la famille. Pour moi, le social, quand on a 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans, c'est aussi l'école, puisque c'est le lieu social où les élèves passent une bonne partie de leur vie. Donc essayez de comprendre comment l'environnement peut influencer la cognition en développement. Vous voyez pourquoi là, on est bien dans l'analyse des pratiques des enseignants. Mais ce que je vais ajouter aujourd'hui et je vais soumettre à votre sagacité, c'est comment les pratiques de l'école maternelle vont faire écho ou pas aux pratiques familiales. Donc je vais passer quelques instants sur les pratiques familiales. Je dis ça parce que je m'agace de plus en plus de ce qu'on dit dans les salles des maîtres, parce que je vais beaucoup dans les écoles en ce moment, sur les familles de milieux populaires et notamment sur les fausses croyances qui cohabitent à l'école sur les supposées pratiques des parents. Donc je voulais en faire un petit bout avec vous. Ah bah tiens, voilà le résultat de ma cogitation, ma thèse, alors qui a ce titre absolument monstrueux, mais je vais quand même le dire. Développer la conceptualisation et la prise de conscience métacognitive à l'école maternelle, effet sur l'efficience scolaire ultérieure. Comme vous pouvez le voir, c'était une thèse qui était à mi-chemin entre les sciences de l'éducation et de la psychologie, puisque dans le jury, on avait Elisabeth Bautier et Freddy Buchel du côté des sciences de l'éducation, Fayol, Gilly et Paour du côté de la psycho. Donc c'était vraiment une thèse à l'interface entre les deux disciplines. J'ai opté pour les sciences de l'éducation par la suite. Du constat à la problématique de l'école, de recherche, je commence par là. L'école française, une école efficace pour la grande majorité des élèves. Et là, quand on regarde les évaluations PISA, on voit que nous n'avons pas à rougir de nos performances. Quand on regarde les évaluations nationales CE2, on voit par exemple que du côté de l'enseignement du code, l'école maternelle française fait très bien son travail. 4% des élèves ne maîtrisent pas le décodage. Au nombre de ces 4%, si tout va bien, on trouve 3% d'enfants qui présentent une dyslexie et 1% d'enfants qui présentent un retard mental ou des difficultés d'apprentissage particulières. Autrement dit, 96% d'entre eux ont acquis le décodage en CE2. Je ne reviendrai pas sur cette question. Et là, je redis ce que je disais à l'instant, une école qu'on sait depuis longtemps inégalitaire et qui l'est très tôt. Et je reviens sur ce schéma, mon schéma fétiche, le score moyen à l'évaluation à l'entrée en CP, au CP que vous avez dû voir 50 fois, parce que je fais toutes mes conférences avec. Donc c'est là qu'on voit que les professeurs sont plus efficaces que les instituteurs pour former leurs propres enfants, mais moins efficaces pour former les enfants des autres. Globalement. Comment on explique la différence entre professeur et instituteur ? On l'explique par le niveau atteint par la mère et le père, c'est-à-dire que le niveau d'études atteint par les parents a un effet très fort sur les performances des élèves et que plus le niveau d'études des parents augmente, plus le niveau de leurs enfants augmente. La question, évidemment, si je la résume ainsi, c'est mais comment faire en sorte que les enfants des autres soient aussi performants que nos propres enfants ? C'est l'objet de ma présentation de ce matin. Donc, une école efficace pour la grande majorité des élèves, très tôt inégalitaire, et qui le reste. Et là, je vous montre... Non, c'est 2012, hein. Non, 2002. Oui, 2002. Voilà. Si on regarde en CE2, l'école maternelle ne réduit pas les inégalités sociales, mais l'école primaire n'y réussit pas mieux. Et voilà. Première question, moins de quoi ? Évidemment, je vais là beaucoup parler en creux, tout en sachant combien les élèves qui me préoccupent ont beaucoup de potentiel, de compétences. Mais c'est pas sur ça que je vais venir, puisque je m'intéresse à ce qu'il importe que l'école propose à ses élèves pour réduire les inégalités sociales. Je vais reprendre un tableau aussi que j'utilise beaucoup en formation. J'ai interrogé 600 enseignantes expérimentées de maternelle au cours des formations continues. Je parle de la France, je parle aussi de la Suisse, ce qui explique le score élevé d'enseignants interrogés. Et je leur pose la question de savoir ce qui les inquiète. Je fais cette étude depuis que j'ai été nommée à Lyon en 2001. Et donc, chaque année, je continue à faire cette même étude et chaque fois, j'obtiens les mêmes résultats. J'obtiens ceci. Qu'est-ce qui inquiète les enseignants ? Des enfants violents, des enfants rois, des enfants inhibés mutiques, des enfants qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne comprennent pas les consignes, qui ont des problèmes familiaux, c'est assez limité, et qui sont paresseux, qui manquent de motivation et de curiosité. Mais en fait, j'ai enlevé le premier score. C'est celui-là. Ce qui inquiète le plus les enseignants expérimentés à l'école maternelle, ce sont les enfants qui présentent, selon eux, des troubles de l'attention, de la concentration, une hyperactivité, des troubles du comportement. Et ils ont raison. Ils ont raison de s'inquiéter parce qu'on n'apprend pas quand on court dans tous les sens, on n'apprend pas quand on n'arrive pas à fixer son attention. Et ce que je note dans mes petits questionnaires annuels, c'est que ce chiffre, le nombre d'enfants qui, selon les enseignants, présentent cette difficulté, ce trouble, augmente. C'est-à-dire que, et je les crois, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, dans les classes, on compte plus d'enfants qui ont des problèmes à se concentrer, j'enlève le trouble, qui ont de la peine à être attentifs. Je crois qu'il y en a plus aujourd'hui. Quand je vais dans les classes, je constate ça. Voilà. Donc, ils ont raison de dire ça. Maintenant, la question, c'est savoir de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est propice ou qu'est-ce qui provoque ces troubles, je dis pas troubles, cette difficulté que les élèves ont à se centrer sur une activité longtemps. Et je vais faire cette hypothèse avec vous, que je fais beaucoup avec mes PE2 et que je crois assez féconde. Je crois féconde parce que ça les amène à réfléchir un peu autrement la manière dont ils interprètent les signes apparents d'agitation. Si on pense que le cerveau humain ne peut pas rester inactif, et j'ajoute quand on est enfant, parce que si vous regardez vos étudiants pour les uns, vos enseignants en formation continue pour les autres, pour les autres, les enseignants en maternelle, vous ne pouvez pas l'observer, vous voyez que nos étudiants, nos enseignants, ils ont d'excellentes manières, très polissées, d'être inattentifs. Alors, ils sont plus polissés en formation continue, encore que maintenant, je trouve que là aussi, les choses ont changé pendant mon absence. Ils ont tous leur natel, leur mobile, leur internet, leur mobile, leur téléphone, sur la table ou sous la table quand ils sont un peu plus polis. Et ils se gênent pas pour regarder leur mail ou aller sur Facebook quand ils sont étudiants, quand il y a la Wi-Fi. Ils font la liste des courses, ils sortent l'agenda et ils notent leur vie de ministre, etc. Donc les adultes, où ils s'en vont, hein, les étudiants aussi, quand ils sont pas assignés à résidence, ils prennent la porte. Donc les adultes ont des moyens de gérer leur inattention, leur ennui, les enfants l'ont pas. Les enfants sont assignés à résidence, ils sont enfermés dans la classe, donc ils font autre chose. Et ils n'ont pas d'agenda. D'ailleurs en maternelle, vous devriez leur en donner, peut-être que ce serait pas mal. Et ils n'ont pas encore de téléphone portable. Non, maternelle, arrêtez. Pas encore. Les parents sont encore le contrôle sur eux. Vous savez que c'est les parents qui se rassurent en donnant un téléphone portable. Ah, mais il faut bien qu'ils s'entraînent. Hein. Non, il faut qu'ils apprennent les chiffres. C'est très bien. Non, c'est bien. Il faut leur donner. Il faut pas qu'il y ait de sonnerie, c'est tout. Alors, je fais cette hypothèse-là. C'est qu'au fond, eh bien, quand l'inattention est très... Voilà, c'est ça mon hypothèse. On peut y faire effectivement l'hypothèse que les élèves sont inattentifs, donc ils ne comprennent pas. Je fais l'hypothèse inverse et je dis dans 99% des cas, c'est une hypothèse, hein. Je peux faire la Marseillaise, si les élèves sont inattentifs, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas ce qui se passe, comme ils n'ont pas les moyens de résoudre les activités, alors ils sont inattentifs et donc ils s'agitent. Et comme ils s'agitent, ils comprennent de moins en moins. Si on regarde le nombre d'élèves qu'on peut dire aujourd'hui véritablement hyperactifs, on doit être à 0,5% d'enfants. Donc, les autres ont les moyens cognitifs, neurologiques, pour contrôler leur comportement dès l'âge de 1 an ou 2 ans. S'ils ne contrôlent pas leur comportement à l'école maternelle, pour moi, c'est un effet tâche, un effet activité, qui fait que, comme ils ne sont pas dans l'activité, comme ils ne sont pas dans la tâche, alors ils ne sont pas attentifs et donc ils s'agitent. Ça va ? Donc, conclusion, c'est si on veut réguler l'attention des élèves, si on veut accroître leur capacité d'attention, eh bien, il importe de s'interroger sur la compréhension. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces élèves comprennent de l'activité ? Première étape. Deuxièmement, quel type de compétences sont requises par la tâche dont les élèves disposent ou ne disposent pas ? C'est-à-dire que bien souvent, la tâche est hors de portée des élèves et, partant, ils s'agitent. J'enlève, et je ne devrais pas, mais je ne parle pas de l'ennui. Et pourtant, j'aurais pu remplacer compréhension par ennui. C'est-à-dire que mon observation des situations scolaires de cette année m'amène à penser que très souvent, à l'école maternelle, les tâches sont si répétitives, si longues, si peu intéressantes d'un point de vue cognitif et intellectuel que les élèves s'agitent. C'est-à-dire que si on faisait une analyse des tâches proposées à l'école maternelle, on verrait que beaucoup d'entre elles sont peu... on dirait que je n'ai pas vécu aux États-Unis, challenge, stimulante, d'un point de vue intellectuel. Et parfois, je me dis que ceux qui se concentrent sur une tâche pareille, c'est quasiment pathologique. Je m'inquiéterais même. Alors là, ça, j'adore ça. C'est selon les enseignants expérimentés interrogés, un élève scolairement adapté, je parle bien d'école maternelle, hein, qui n'inquiète pas l'enseignant, est un élève qui participe activement au travail de la classe, ça va avec le reste, qui s'agite pas trop, qui sait organiser son travail et s'en sortir tout seul, autonome, autorégulé, qui a confiance en lui et qui persévère face à la difficulté. Je parle bien d'enseignants de maternelle. J'ai été frappée dernièrement par un texte que j'ai lu dans le livre qu'ont publié Jacques Crinon et Jean-Yves Rochex, qui s'appelle « La construction des inégalités scolaires », qui est paru chez PUF en 2011. J'ai été frappée dans le texte de Christophe Joigneau, que je vais citer par la suite. Elle va être là, la référence, hein, je l'ai par la suite. J'ai été frappée par quelque chose qui paraît tout à fait anodin dans le texte, mais à un moment, Christophe Joigneau parle d'élèves. Il analyse une situation en maternelle. Vous avez lu ce texte ? Non ? Oui, non. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, il analyse l'enseignement à l'école maternelle et il étudie comment la maîtresse s'adresse de manière très différente aux élèves performants et aux élèves peu performants. Et il montre que dans un cas, les élèves sont guidés du point de vue du cheminement intellectuel, du fonctionnement intellectuel, les élèves les plus performants, quand les élèves les moins performants sont plus guidés sur la bonne réponse, la réussite à la tâche. Et on voit comment les uns vont améliorer leur capacité intellectuelle, leur fonctionnement intellectuel, quand les autres vont seulement apprendre la bonne réponse, apprendre à réussir. Ça va ? Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Christophe Joigneau caractérise ses élèves. Il dit pour l'un, élève performant, je crois, c'est un peu plus bas, mais j'en parle ici, élève performant ou bon élève, et pour l'autre, il dit élève non autonome. Et ça, je trouve très intéressant de montrer comment on bascule d'un élève, ou c'est le contraire, élève autonome pour l'un, élève en difficulté pour l'autre. Comme si la non-autonomie était synonyme de difficulté scolaire. Ça va ? Dès l'école maternelle, on considère qu'un élève peut et doit apprendre tout seul, être autonome, autorégulé. Ça va ? Pourquoi je mets les deux mots ? J'aime pas beaucoup jargonner, c'est à cause de ma pratique d'école. Vous vous rappelez peut-être que dans les années 90, on les a toujours, mais il y avait des livrets scolaires qu'on passait aux parents avec acquis, non acquis en cours d'acquisition. Et un jour que j'avais un élève absolument pas auto-régulé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas commencer un truc sans m'appeler, continuer un autre sans m'appeler, etc. J'avais mis, au moment où il fallait remplir le carnet, j'avais mis avec un plaisir fou, non autonome et en fluo. Hein. Et là, les parents étaient venus me trouver en disant « Mais comment ça, il n'est pas autonome, mon fils ?»« Comment ça, il n'est pas autonome ? Il va acheter le pain tout seul, il s'habille tout seul, il se déjeune tout seul, ou il n'est pas autonome ?» On ne parle pas de la même chose. Et c'est très important. C'est-à-dire que l'autonomie comportementale, il est vrai que bon nombre d'élèves, et notamment de milieux populaires, s'ils ont appris quelque chose, c'est ça. C'est vraiment cette autonomie comportementale, cette capacité à se dépatouiller, à se débrouiller. Mais l'école s'en moque de ça. C'est-à-dire entre un gamin qui ne sait pas mettre son manteau en papillon, mais qui ne sait pas, reconnaît rien, qui ne connaît pas les lettres, qui passe son disque et rien faire avec ses 10 doigts du point de vue scolaire, et un autre qui est complètement... Un qui ne sait pas mettre son menton à papillon, mais qui sait toutes les lettres, sait tout faire, très autonome, etc. Et un autre qui est dégourdi comme tout, mais enfin qui comprend rien à rien à l'école, lequel on préfère à l'école maternelle ? Pas le dégourdi, l'autre. On est d'accord. Il y a vraiment une plus-value aux élèves qui savent mener à bien une tâche scolaire de manière un peu autonome. Ça va ? Alors quand on regarde un élève peu performant, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, bah, toujours pareil, un manque d'attention et de concentration, un manque d'autonomie, un manque de contrôle, problème de comportement. Autrement dit, ce qui fait la différence pour les enseignants de maternelle, c'est ces élèves qui sont capables de réguler leurs apprentissages. Ils ont raison, hein. Mieux on régule ses apprentissages, mieux on apprend, et mieux on apprend seul. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, hors de la présence de l'enseignant, ces élèves vont continuer à apprendre. Pas les autres. Ceux qui ont toujours besoin d'un adulte qui contrôle, qui cadre, qui montre, qui explique, ceux-là n'apprendront pas sans l'aide d'un adulte. Quand je dis « ils ont raison », c'est qu'ils ont fait le profil de l'élève adapté. Maintenant, la question est de savoir comment l'école participe ou pas à faire construire ces compétences qui permettent l'autorégulation. Si je synthétise, ces élèves, quand on regarde ce que disent ces enseignants-là, c'est intéressant parce que ça n'est pas la quantité de connaissances qui est mise en avant par les enseignants de maternelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, vous avez vu dans le schéma, dans le tableau plus haut, des élèves qui connaissent la suite numérique, les élèves qui connaissent les lettres, les élèves qui ont une bonne conscience phonologique. Et les enseignants mettent l'accent sur la qualité de l'utilisation des connaissances, c'est-à-dire geste efficace de l'étude, qualité du fonctionnement intellectuel, type de traitement mobilisé pour traiter les différentes tâches scolaires. C'est intéressant ça, parce que là ils ont raison. Quand je dis ils ont raison, c'est que beaucoup de recherches montrent que ces compétences relativement générales influent beaucoup sur les résultats scolaires. Quand les élèves sont jeunes, plus les élèves sont jeunes, plus ces compétences relativement générales vont influer sur la réussite scolaire. Plus tard, les compétences, les connaissances spécifiques vont pouvoir réduire le poids des compétences générales. C'est-à-dire que, progressivement, le fait de savoir des choses dans les disciplines va limiter la portée des stratégies et de l'autorégulation. Je vous montre ça. En fait, je vous montre pas. Je vous explique. Dans Lectorino et Lectorinette, on est en école primaire. Donc, c'est vraiment pour coller à votre question. On est donc en CE1, CE2. Et dans Lectorino et Lectorinette, vous allez voir pourquoi, mais je vais ménager le suspense, on a mis un accent énorme sur l'enseignement du lexique. Dans Lector et Lectrix, on avait fait cette phrase que je trouve magnifique aujourd'hui, on avait dit « faire du lexique un objectif permanent », c'était l'objectif qu'on a saisi aux enseignants, et nous on s'était bien gardé de faire quoi que ce soit dans Lector et Lectrix. C'est-à-dire qu'on se disait, allez, et donc vous voyez ce que je disais au début de mon exposé, on dit, il suffit pas de dire aux instits les résultats de la recherche, il faut aussi leur expliquer comment on transpose. Là, nous, on leur dit, la recherche a montré qu'il fallait, faites du lexique un objectif permanent et débrouillez-vous. Ça va? Entre-temps, on a beaucoup lu et on se dit, waouh, non, là, il va falloir en dire un peu plus. Et je sais combien on en a bavé pour imaginer des tâches qui nous paraissaient fécondes du point de vue de l'enseignement du lexique. Ça fait 6 mois qu'on y réfléchit, et je me dis que sur Lector et Lectrix, on était beaucoup trop en deçà de ça. Bref, donc dans Lectorino et Lectorinette, nous faisons beaucoup de lexique. Le collègue qui l'a vu tourner dans une de ses écoles... Donc le collègue qui l'a vu tourner dans une de ses écoles de tiers a pu voir combien, dans les textes qu'on propose, le lexique n'est pas simple. Et donc, le nouveau texte que le collègue n'a pas vu s'appelle « La fiole à turbulon ». Et dans le premier paragraphe, on a compté pas moins de 20 mots, expressions, que les élèves étaient susceptibles de ne pas connaître. L'école ZEB dans laquelle je travaille m'a montré que non seulement ils étaient susceptibles de ne pas connaître, mais en plus, ils ne les connaissaient pas. Et donc, dans notre dispositif, on leur demande de mémoriser ces mots. Et la maîtresse avait fait ça. Le week-end, les élèves étaient chargés d'apprendre 20 mots et leur définition à la maison. Ils les avaient étudiés en classe, mais en tout cas, ils étaient censés les réviser. Et ce jour-là, elle propose de mettre le mot en face de la définition. Ça va? Et elle met tous ces mots dans une enveloppe, elle distribue l'enveloppe aux élèves. Et elle leur dit, bien voilà, débrouillez. Et c'est pour ça que c'était intéressant, parce qu'elle travaille par ailleurs en mathématiques sur l'organisation de collection. Elle dit, débrouillez-vous, mais vous devez ranger ça pour que le mot soit en face de la définition. Elle ne parle pas de stratégie. Et elle leur donne l'enveloppe, et au bout de 5 minutes, elle fait un stop. Ça va? Première élève, on en est là. Donc là, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'organisation. Il est complètement perdu. Il a retourné ses étiquettes. Je ne sais pas si ça se voit, mais les mots sont en gras quand les définitions sont en light. Donc lui, là, il est complètement perdu. C'est Amine. Il est toujours dans son fouillis. Voici Djellil. Pour l'instant, on est au bout de 5 minutes. Donc, vous voyez, lui, il a compris l'organisation en gras. Et en face, il a pour l'instant installé, ça n'est pas la définition. Il a juste opéré le tri, hein, ça va ? Puisqu'on a la cire et en face, il a mis une sorte de petite colline de sable. C'est pas pareil. Ça, c'est dune. C'est beau ? Jéline, Manon. C'est toujours pas fait. Mais elle, oui. 5 minutes. Ah, je crois qu'on l'a là. Oh. Elle semblait s'éteindre. On croyait que la lumière s'éteignait. Le liège, un matériau léger qui sert à faire des bouchons. Donc vous voyez qu'elle, non seulement elle a organisé, mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, au bout de 5 minutes, finit nettement avant lui. C'est-à-dire que il n'a pas la stratégie d'organisation systématique, mais il a tellement de connaissances parce qu'il a tellement bien appris qu'au moment où Jélil a bien tout rangé et qu'il va falloir mettre en face, comme il n'a pas appris, il n'y arrive pas. Tandis que l'autre, en bidouillant, en machinant, en prenant à droite, à gauche et machin, eh bien, il va y arriver en 12 minutes quand Jélil n'y arrivera jamais. Donc, on voit comment là, les connaissances spécifiques vont compenser les compétences stratégiques. Je repars. Autre question, réaction bouton pendant que je repars. Certes, si on a les deux, on est toujours un élève performant. Mais parfois, alors que chez les petits, il n'y a pas suffisamment de compétences spécifiques disponibles pour compenser le manque de stratégie, le manque d'autorégulation. Cela dit, quand on regardait le petit garçon dont je parle, Amine, il était autorégulé du point de vue de la tâche. C'est-à-dire qu'il s'est acharné en dépit de son manque d'organisation. Il était au travail, il n'a pas appelé, il avait ses connaissances et il a tenu jusqu'au bout. Donc, certes, il n'avait pas une bonne stratégie d'organisation, mais il avait d'autres capacité de régulation, qui était celle de « je veux terminer la tâche, je veux montrer à ma maîtresse que j'ai vraiment appris mon vocabulaire ». Et là, on est encore dans l'autorégulation. Hein. Il n'a pas abandonné, il n'a pas lâché, il ne s'est pas laissé submerger par la quantité d'étiquettes. Je conclus en disant que, sur ce point, les pratiques éducatives parentales et scolaires sont très différenciatrices. Je vais commencer par les parentales. Non, je vais commencer ici. Alors, des différences sociales aux difficultés scolaires. C'est le titre. Je vais essayer de montrer comment l'école, pour moi, transforme des différences sociales en difficultés. C'est-à-dire que quand les élèves arrivent à l'école maternelle, ils arrivent différents, que ces différences jusque-là ne sont pas synonymes de difficultés, mais que compte tenu des pratiques des maîtres, elles vont parfois, souvent, se transformer en difficultés scolaires. Et quand on observe les différences entre élèves de milieu favorisé et élèves de milieu populaire, Je vais à la louche, là, hein, évidemment. On voit des différences touchant la nature du contrôle, encore une fois, autonomie, autorégulation, des différences dans la nature de l'attention et de la concentration qui sont très liées. Plus l'élève contrôle sa tâche, plus il est capable de réguler son attention. Moins il sait contrôler tout seul sa tâche, plus il a besoin d'un autre pour réguler son attention. C'est très, très lié. Et puis, j'ajoute que le contrôle, la régulation, le contrôle de son attention, c'est extrêmement dépendant de la quantité de connaissances, de compétences, de savoir-faire, de stratégies, de procédures. Je voudrais bien mettre un S à procédure acquise, mais je l'ai oublié. C'est très dépendant de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en contrôle si on n'a pas les connaissances. En tout cas, à long terme. Quand je le dis pour tout à l'heure, Amine finit l'activité, Jélil, alors même qu'il a la bonne stratégie, ne finit pas. Parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc, vous voyez que là, je fais un petit clin d'œil à l'éducation cognitive, avec cette idée qu'on aurait pu apprendre des stratégies un peu à vide et que les élèves en auraient profité dans les disciplines. On voit comment, oui, certes, les stratégies sont requises, mais en même temps, les connaissances très spécifiques. Ça va ? Oui ? Eux-mêmes très dépendants de la qualité du fonctionnement mis en œuvre, lui-même très dépendant de la nature et de la qualité des pratiques éducatives. Voilà, ça, c'était la synthèse de ce que je viens de dire. J'aurais pu en profiter pour mettre les S, fermer la parenthèse. Voilà, ça c'est l'introduction. Il n'est jamais que 10 heures. Non. De ce que je vais travailler avec vous ce matin et puis normalement un bout d'après-midi. Et là, je vais utiliser ce modèle. Je l'adore. Si vous êtes formateur d'enseignants, les tous là, ceux qui ne le sont pas oubliés, mais même. Ce modèle, pour moi, il devrait commencer toutes les formations. Je l'ai découvert en 2006. Et je crois que pour comprendre l'école, c'est le meilleur. Surtout en ce moment. Vous avez vu processus de production de la situation de handicap. Fougérolas est un Québécois qui s'intéresse aux élèves qui ont besoin éducatif particulier. Et il montre, et c'est d'ailleurs à cause de lui, grâce à lui, qu'aujourd'hui, on parle de situation de handicap et pas de handicap. Mais évidemment, on s'interdit, grâce à lui, de parler d'enfants en situation de handicap, ce qui ne veut rien dire. Je vais m'expliquer. Quand je vois dans les textes officiels, ce dispositif s'adresse aux élèves en situation de handicap, je comprends que les gens n'ont strictement rien compris à ce magnifique modèle de Fougérolas. Alors, je m'en explique. Fougérolas montre, dans son modèle, il dit que la situation de handicap dépend des facteurs personnels de l'élève. C'est pas un scoop, ça. Et on va aller dans les extrêmes. Un élève qui présente un syndrome de Down ou trisomie 21 présente nécessairement un retard mental, donc nécessairement va être, dans des situations ordinaires, mis en situation de handicap. Ça va ? Donc, c'est pas un scoop. C'est bien ce que t'es en train de chercher. C'est bien ce que cherchait aussi l'INSERM, avec leur histoire de chercher les élèves qui pourraient potentiellement un jour devenir des délinquants. C'est-à-dire que, oui, il y a des facteurs personnels qui vont générer un certain nombre de comportements. On peut pas douter de ça, évidemment. Et donc, que le système organique soit intègre ou déficient, qu'il y ait des aptitudes, des capacités, incapacités, certes, les facteurs personnels vont jouer un rôle. Mais ce que rajoute Fougérolas, c'est que la situation de handicap est toujours une interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Toujours une interaction. C'est-à-dire que ça n'est jamais seulement le facteur personnel qui génère une situation de handicap ou jamais seulement un facteur environnemental qui génère une interaction. Et si je dis ça, c'est que ça nous permet de raisonner en formation toujours ce lien entre les pratiques professionnelles des enseignants, mais sans oublier les caractéristiques des élèves. Et je dis ça parce que très souvent, on fait une analyse des pratiques des maîtres en oubliant complètement que face à eux, ils ont des élèves qui présentent un certain nombre de facteurs personnels qui expliquent leurs pratiques professionnelles. Et inversement, d'autres sont totalement centrés sur les facteurs personnels des élèves en pensant que plutôt on détecte ces facteurs-là, plutôt on détecte les déficiences et les incapacités, plutôt on peut agir, certes, mais plutôt on peut agir en tenant compte des facteurs environnementaux. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas raisonner ces facteurs personnels indépendamment des facteurs environnementaux dans lesquels sont placés les élèves. Ça va, ça ? Et puis, une interaction qui va... Si ces facteurs environnementaux sont facilitateurs, alors l'élève sera placé en situation de participation sociale. Mais si ces facteurs environnementaux constituent des obstacles, alors l'élève sera placé en situation de handicap scolaire. Mais un même enfant qui présente un syndrome de Down ou qui présente une surdité peut être, à un moment de la journée, placé en situation de participation sociale et jouer son rôle d'élève, et à d'autres moments, être placé en situation de handicap scolaire et être en situation de handicap. C'est pour ça que ça ne veut rien dire de parler d'un élève qui est en situation de handicap. Il est handicapé, oui. Il présente un handicap, oui. Mais il n'est pas toujours placé en situation de handicap. Donc le politiquement correct, là, il est complètement en défaveur de ce modèle. Ça va ? Je me suis fait comprendre ? Et donc, reprenons. Vous avez entendu, plus que moi sûrement, parler de cette polémique du début d'année, quand le ministère a eu cette idée qu'il était important de tester les élèves en début d'année pour détecter les élèves qui allaient bien, à risque, à haut risque, à très 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 haut risque, à risque d'explosion en plein vol, etc. Bien sûr, cette idée, elle est là. Elle dit attention. Certains élèves ont un certain nombre de facteurs personnels qui, si on modifie pas, si on n'infléchit pas les facteurs environnementaux, risquent bien de les placer en situation de handicap scolaire dans la suite de leur scolarité. On peut pas être contre cette conception. C'est le à haut risque qui fait peur. Ce que ce test aurait permis de montrer, et ce que j'espère il pourra montrer, et ce sur quoi les enseignants ne pourront être que d'accord, c'est que dans leur échantillon de classe, 30 élèves, 33, il y a un certain nombre d'élèves pour lesquels il est important de modifier les facteurs environnementaux pour intégrer un certain nombre de pratiques qui va favoriser la participation sociale de leurs élèves l'année suivante ou au cours de l'année. Je prends l'exemple de la conscience phonologique. Si on reprend le test de Zormann, on voit qu'à l'entrée en grande section, on a 10, 20, 30, 40%, parfois 50% d'élèves qui sont très loin des compétences qui permettent d'envisager l'inscription au CP en toute tranquillité. Ces enseignants vont tenir compte de ces facteurs personnels en disant « Ouh là là, 50% des élèves de ma classe ne maîtrisent pas la conscience phonologique, alerte. Que vont-ils faire ?» Une fois qu'ils auront ces résultats, ils vont dire « Ben voilà, je vais modifier les facteurs environnementaux pour inscrire des facilitateurs, c'est-à-dire je vais proposer un entraînement à la conscience phonologique qui va permettre à mes élèves une participation sociale. » Ça va ? Ce que j'aime dans ce modèle, c'est que ça met à égalité les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Autrement dit, si un élève n'apprend pas, c'est tout autant parce qu'il a des facteurs personnels qui empêchent, mais c'est aussi les facteurs environnementaux. Mais les deux sont pris en compte. Et pour des enseignants en formation, c'est très important de dire, oui, pour certains élèves au moins, eh bien, il y a des facteurs personnels qui expliquent la difficulté. Ça va ? Et ça, il me semble qu'en didactique, par exemple, cette dimension est totalement absente. C'est-à-dire qu'il y a un élève, je dirais épistémique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, alors c'est bien, enfin un élève, mais on n'a pas une description particulière des difficultés de chaque élève. Et ça, ça met les enseignants en difficulté parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui, à un moment ou à un autre, fait obstacle à la compréhension. Et là encore, je ne pense pas qu'il faut être un spécialiste de la psychologie du développement. Il n'y a pas 50 millions de façons d'apprendre, il n'y a pas 50 millions de difficultés, il y a quand même beaucoup de parenté dans les facteurs personnels des élèves. C'est avec ça que je vais raisonner avec vous. Et je vais commencer par là. Et dans facteurs environnementaux, vous avez vu que la première ligne, il s'agit des familles, et je vais m'y intéresser quelques instants avec vous pour montrer, et en tout cas essayer d'illustrer, pourquoi certains enseignants à l'école maternelle sont mis en difficulté face à certains élèves. Facteurs environnementaux, l'influence des styles éducatifs familiaux et scolaires, je vais commencer par familiaux mais je poursuivrai par scolaire, sur la qualité du développement, sur l'acquisition de connaissances, de compétences et stratégies, sur le fonctionnement mis en œuvre, sur la nature et le lieu du contrôle. Petite bibliographie que je ne vous demande pas de noter mais pour montrer que j'ai lu. Alors, plusieurs auteurs ont cherché à différencier les styles éducatifs des parents puis à comprendre leur influence sur la qualité du développement cognitif de l'enfant. Il va de soi que je vais parler en termes de tendance, que jamais aucun parent n'est tout à fait ceci ou nous tout à fait cela, mais que dans une journée, dans une semaine, dans un mois, il aura plutôt tendance à être comme ceci ou comme cela. Et tous ces auteurs concluent sur la même idée, que les pratiques les plus favorables au développement sont celles qui respectent une loi d'optimum. Rappelez-vous, nous sommes dans les familles. Mais je pense, sans me tromper, qu'on peut tout à fait transposer ce que je suis en train de dire aux pratiques d'enseignement. Vraiment. Pour l'instant, ça n'a été montré que sur les familles. Mais en tout cas, ce qui offre autant d'occasions aux enfants d'assimiler que d'accommoder. Vous retrouvez là les expressions piagétiennes, mais autant d'occasions d'assimilation que d'accommodation. Accommodation pour permettre à l'enfant d'abstraire des règles, de faire plusieurs fois la même expérience pour en tirer une règle qui va être extrêmement efficace par la suite, régularité qui permet l'automatisation, etc., etc. Plusieurs mêmes situations pour abstraire une règle, plusieurs fois la même tâche pour automatiser les savoir-faire acquis. Mais évidemment que si les tâches n'étaient que toujours les mêmes, il n'y aurait pas de développement, donc d'autres tâches d'accommodation qui vont perturber l'élève, qui vont l'amener à se poser un problème et qui va donc l'amener à revisiter sa manière de voir. Là, je ne pense pas que c'est tout seul. Hein. Accommodation, on peut très bien accommoder avec un adulte. Je ne suis pas en train de dire que c'est une perspective constructiviste mal comprise. Hein. Ça, je m'en expliquerai si vous voulez par la suite. Et offre de nombreuses occasions d'expériences d'apprentissage guidées par l'adulte qui ajuste les tâches et les aides au niveau atteint par l'enfant. Donc voilà, nombreuses occasions d'apprentissage guidées par l'adulte. Là-dessus, si vous avez un sujet de, si vous aviez envie de faire une thèse et que vous cherchiez un sujet sur l'école maternelle, ce que j'observe aujourd'hui, je voudrais bien savoir sur 6 heures d'école, combien de fois les élèves, individuellement, mais peut-être en collectif, profitent de temps où il y a un enseignement guidé par l'adulte. Je serais curieuse, en termes de temps. À l'école maternelle, on sait ça. On sait ça sur les histoires d'assimilation, on le sait, vous avez tous vu ces fameuses tâches ritualisées. Et vous pouvez aller dans beaucoup de classes de maternelle au cours de vos inspections ou de vos visites, vous voyez beaucoup de tâches qui se répètent, qui sont les mêmes que vous voyez partout et que vous voyez partout tous les jours. Prenons l'exemple, la date, compter les présents, compter les absents, la météo, l'histoire qu'on raconte, le graphisme, on en trouve 50 de tâches totalement rituelles que les élèves font du matin au soir, de la petite, toute petite à la grande section, vous êtes d'accord ? C'est ce qui montre bien que les enseignants savent qu'il est important de proposer plusieurs fois la même activité pour que les élèves automatisent. Bon. C'est pas si automatique que ça, je vais en donner un exemple tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, l'idée y est. Et puis, il y a aussi l'idée que, j'exagère avec mon sans cesse, mais dans les écoles maternelles, on voit beaucoup de tâches nouvelles, hein, où on innove, où on invente, où on imagine des tâches, avec l'idée que plus c'est nouveau, plus c'est beau, plus ça motive les élèves. Je reviendrai sur cette notion par la suite. Mais toutes les perturbations ne se valent pas. Et j'adore cette phrase de Lautrey. Lautrey, c'est celui qui a écrit « Milieu social et développement ». Je ne sais plus, j'ai mangé sa référence, mais voilà ce qu'il dit. Si la perturbation est bien le moteur de l'activité de connaissance, eh bien, le moteur du développement, tout le problème consiste dans un premier temps à placer l'enfant dans des situations qui peuvent être source de perturbations cognitives. Et dans un second temps, à faire en sorte que ces perturbations cognitives enclenchent effectivement une activité de construction cognitive. C'est la phrase qui tue ça. C'est-à-dire que souvent les élèves sont mis en situation de perturbation, ils ne savent pas faire, mais comme ils n'y arrivent pas, parfois, ils détectent même pas qu'ils n'y arrivent pas, donc ils appellent à l'aide. Et si la maîtresse guide sur la bonne réponse, la leur donne, en gros, eh bien, on voit qu'il n'y a ni perturbation cognitive, ni construction. De la même manière, on pense souvent qu'il suffit de mettre les deux petits par deux à tripoter, à manipuler pour qu'il y ait un conflit sociocognitif. On a montré que les conflits sociocognitifs étaient, mais exceptionnels dans une classe. Qu'il y ait des désaccords, c'est une chose, mais que les élèves profitent d'une discussion entre eux pour améliorer leurs compétences cognitives, c'est exceptionnel. Est-ce que ça va, cette phrase ? Moi, je trouve qu'elle tue, celle-là. Elle dit tout. C'est-à-dire que, voilà, il faut encore que le gamin voit qu'il y a un problème, ce qui n'est pas évident, mais qu'en plus, il ait envie de passer par-dessus, de modifier son mode de pensée pour... Bon, ça... Voilà, conflit cognitif, conflit socio-cognitif, on a beaucoup dit que c'était un gage d'apprentissage et de développement, oui sûrement, mais sûrement pas pour tous et sûrement pas toujours. Et en tout cas, c'est pas dans cet ancrage théorique que je me situe, j'en parlerai par la suite. Alors Lautrey, là je vais vite parce que je sais que c'est archi connu, distingue trois grandes catégories structures éducatives, ça va, vous connaissez ces travaux ? Non ? Alors j'y vais doucement parce que j'aime tellement. Trois grandes catégories de structures éducatives ou styles éducatifs dans les familles. Et je vous connais, vous, en face de moi, vous allez vous dire, c'est exactement ce que je vois dans les classes. La même chose. Première chose, structure éducative rigide. La loi, c'est la loi et la loi, c'est moi. Présence de règles strictes, non négociables, quelles que soient les circonstances, beaucoup de régularité, peu de perturbations, un environnement très prévisible. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout de suite, hein, là-haut. Donc, beaucoup de régularité, très peu de perturbations. On peut ça va. Là, vous avez mon frère. Voilà, la loi, c'est la loi, c'est lui. On se couche à 8h30. Ah, mais papa, il y a Sylvie. Et tout le monde va se coucher. Ça ? La loi, c'est lui. Il y en a plein les écoles. Hein. Ça va ? Moins en maternelle. La structure éducative faible ou faiblement structurée ou aléatoire. Ici, quasi-absence de règles, beaucoup de perturbations, un environnement peu prévisible. Mon frère, l'autre, C'est, il travaille beaucoup, et donc, il a 4 enfants, et donc, il les voit peu. Et donc, s'il rentre le soir et qu'il n'est pas fatigué, les enfants restent là, les 4 garçons, pendant... pendant minuit, 1h du matin, le lendemain, il y a école, mais ça fait rien, on en profite, tatala. S'ils rentrent fatigués, à 7h, ils sont au lit. Et donc, voilà, vous voyez l'idée. Mais vous en avez plein, des amis comme ça, où vous allez chez eux le soir, là, ils vous les laissent à l'apéritif, ils font tout tomber pendant l'apéritif, et puis voilà. Et après, ils vous cassent les pieds, ils sautent sur le dos de papa, et papa, pour montrer qu'il a du muscle, il les prend, il le fait sauter en l'air. Et puis alors, l'autre, il s'épuise, il est fatigué, il pleure, et donc on va le faire sauter encore plus pour qu'il arrête. Ça va? Et à minuit, il prend une fessée parce que vraiment, il est très pénible. Mais enfin, c'est aux parents qu'il fallait donner une fessée, là. Vous avez vu dans quel côté je me range, moi? En vieillissant. Et vous? Vous. Structure éducative souple. Présence de règles, mais négociation possible. Pas de négociation de la loi. Tu ne me parles pas sur ce ton. Ah, mais... Oui, d'accord, il y a les cousins, alors tu vas te coucher à 9h moins le quart. On modifie les règles en fonction des circonstances, et il y a une bonne proportion de régularité par rapport aux perturbations. Ça va, ça? Ok. Si je vous fais choisir qui vous êtes 3. Moi, je sais par observation que je suis 1. Et plus je vieillis, et plus je suis 1. Mais bon. Alors, bon, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Eh bien, en fait, si. On a dit grand chose parce qu'il faut savoir. Et ça, écoutez bien parce que vous allez pouvoir faire les malins dans la salle des maîtres. Pour les uns, dans les formations pour les autres. Vous les entendez, ces gens qui vous disent tout le temps. Ah oui, mais dans les milieux populaires, ils ont plus de lois, ils ont plus de règles, ils respectent rien, les parents transmettent rien, blablabla. Bla bla. Tous les travaux montrent que c'est faux. Et que, en tendance, les gens, les parents de milieux populaires sont plutôt dans la catégorie éducative rigide. Et que quand les élèves arrivent à l'école maternelle avec ces maîtresses un peu youplaboum, la souple, ils comprennent rien. Et donc, ils vont passer leur temps à chercher le cadre. Ce qui fait dire aux gens, ils sont foufous, ils sont inattentifs, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils cherchent. Et moi, je me rappelle cet élève qui me disait, mais qu'est-ce qui me surveille, bon sang de bonsoir? Parce qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait dans la classe. C'est vachement intéressant, ça, hein. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ces élèves peuvent développer des comportements un peu agités pour comprendre où se situe l'arrêt, qui va les cadrer, qui les contrôle. Parce que dans ces structures éducatives rigides, on contrôle beaucoup. Ça va, ça? Et donc, on interprète son comportement comme « Ah, mais oui, c'est parce qu'à la maison, ils n'ont pas de limites. » Non, 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 c'est parce qu'à l'école, il n'y en a pas assez. Et donc, ils vont les chercher. Vachement intéressant, ça, admettez-le. Il n'y a que moi que ça intéresse peut-être. Non, pas ça. Non, mais je trouve ça passionnant. Alors, les éducatifs qui vivent dans une structure éducative souple, faible, dès lors qu'ils se trouvent à l'école, c'est le contraire. Ils vont se trouver beaucoup plus cadrés. Et donc, ils vont soit accepter ce cadre avec beaucoup de plaisir, parce que c'est très anxiogène d'être dans un milieu faible, éducatif faible, ou au contraire, taper dans le cadre. Mais c'est pour une autre raison. Donc, et pourtant, ça va ressembler. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans une structure éducative rigide vont eux aussi chercher le cadre, tout autant que les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Ça va? Et donc, attention à ces interprétations un peu rapides en disant « Ah, mais chez eux, il n'y a pas de règles et de lois, c'est faux. » Je vais vous raconter, j'allais dire couper la caméra, mais tant pis. Je vous raconte cette histoire, je l'adore. Un jour, on a un élève en CM1, quand j'étais à Marseille, qui n'était pas sage du tout. Et on convoque le père. Et voilà, le père arrive. Et on lui explique que vraiment, il n'est pas sage et tout ci et tout ça. Et il nous répond. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous venez, moi, quand il fait l'idiot dans la baignoire, là? Je vous appelle pas, je vous téléphone pas, pourquoi vous m'appelez? J'ai adoré ça. C'est-à-dire que cette idée, je continue, je vais le dire après, mais dans une structure éducative rigide, on a l'idée que il faut contrôler l'enfant en présentiel. C'est en présence qu'on peut contrôler. Pour le reste, on n'a pas le contrôle. C'est ça qui nous dit le père. Mais qu'est-ce que vous venez me demander? Je suis pas là. Or, vous savez bien, vous qui avez été élevé plutôt peut-être en souple, combien la voix de votre Jiminy Criquet, votre mère ou votre père, vous accompagne où que vous soyez. Non, ça ne se fait pas, disait ma mère. Ben moi, je suis encore à mon âge, j'entends encore ma mère qui dit non, ça ne se fait pas. Donc, on sait bien que le contrôle s'opère autrement qu'en présentiel. Mais un certain nombre de parents considèrent que Pour être efficace, le contrôle doit être fait en présence. C'est ce que nous répond le père. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et son autre truc, vous venez me chercher, moi. Je viens pas vous chercher quand j'ai de la peine avec lui. Elle est magnifique. On parle de partenariat école-famille. Allons dans les deux sens. Allons éduquer les enfants dans les familles. Puisqu'on appelle les parents dans l'école. C'était une boutade. On a raison d'appeler les parents dans l'école. Allez. Alors maintenant, nos deux camarades, Pajot et Palacio Quintin, étudient les faits que le type de structuration exerce sur la qualité du développement de l'enfant. Bah, c'est tout dit. C'est tout dit. C'est, puisqu'on a montré que les meilleures en termes de développement étaient celles qui respectaient la loi d'optimum, ça va, vous avez la réponse. C'est les souples qui obtiennent les meilleures performances. Alors, après, c'est entre rigide et aléatoire. Qu'est-ce que vous diriez? Vous avez compris pourquoi j'ai choisi, hein? C'est les rigides. Il vaut mieux trop de régularité que trop de perturbation. Donc, nos deux camarades ont mis en relation, que je ne connais pas du tout, mais le style éducatif et le développement, et ils montrent que c'est l'absence de régularité qui cause le plus de tort au développement. Et les pratiques rigides sont plus efficaces que celles-ci, mais moins que les souples. C'est donc le style éducatif souple qui permet le développement optimal. Selon Borkowski et Duke, une structure aléatoire rendrait les enfants cognitivement insécures et limiterait leur tentative d'exploration autonome de l'environnement. Ça, c'est passionnant. Installez-vous à la Croix-Rousse un samedi matin au bar en face du marché. Vous le voyez? Il n'y a pas que des Lyonnais ici, mais nous, on va faire local. Bon, dans n'importe quel bar. Bon, évidemment, à Nevers, il n'y a pas de terrasse parce qu'il fait trop froid, mais cherchez chez vous. Et regardez ces parents, j'allais dire bobos, mais c'est pas ça que je veux dire, ces parents qui ont des enfants de 1 an et demi à 2 ans. Et regardez leurs enfants. Il y a certains enfants qu'on voit cognitivement sécures, qui s'éloignent un petit peu de la table, qui vont faire quelques pas, qui ramassent un petit bout de platane, qui font tout. Quand j'entends, ils jettent un œil pour voir si papa et maman sont toujours là, mais ils traficotent. Il y en a d'autres, ils partent. Et donc là, on les rattrape par les cheveux. Et il y en a d'autres qui décollent pas. C'est-à-dire qu'ils sont vissés autour de la table et vraiment avec cette insécurité cognitive qui les rend peu explorateurs parce qu'ils savent pas bien de quoi va être fait la suite de la journée. Ça va ? Et maintenant, comprenons pourquoi. On a dit que les souples, les rigides, les aléatoires avaient un effet différent sur le développement. Mais pourquoi ? Comment ça marche ? Et là, je vais m'intéresser aux travaux de Frédéric Cuisinier qui a étudié l'influence des types de structuration éducative sur les modes d'interaction, les modes de guidage adoptés par les parents et le type de contrôle exercé. C'est ça qui va nous donner la clé. Ça va nous donner la clé pour les parents, pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. Elle a commencé. Alors là, elle distingue pratique A, pratique B. On n'est pas dans le trio de tout à l'heure. On va pas. Je pense qu'elle. Le AB, c'est pratique A plutôt rigide, pratique B plutôt souple. Voilà, on va le raisonner comme ça. Et elle fait un certain nombre d'entretiens. Et la première chose qu'elle demande aux parents, c'est quel est pour vous l'important? Quel est pour vous, qu'est-ce qu'il est important de transmettre aux enfants? Et voilà ce qu'elle voit. Elle dit, dans certaines familles, familles de type A, la conception qui domine, c'est qu'un enfant ne pousse pas tout seul. Il faut sans arrêt être derrière lui. Il importe de lui apprendre les lois et les règles. Il importe de lui enseigner l'obéissance et les règles de politesse. On dirait les programmes maternels 2010. Compétences transversales, règles de politesse. Donc là, normalement, ils devraient être un peu plus adaptés, les gamins. Et puis, pratique de type B, plutôt, qu'est-ce qui est important? Lui apprendre la curiosité, l'exploration du monde, l'esprit critique, l'autonomie. Vous me voyez venir, là? Vous vous rappelez ce qu'ils disaient, les instituts de maternelle? Qu'est-ce que c'est un bon élève? Et voilà. Et on la voit, là. On voit la filiation, là. Je continue. Et là, pardon, ce que fait Cuisinier, c'est qu'elle les met en situation de faire quelque chose. Un puzzle, peu importe. On a fait la même expérience dans le laboratoire où je travaillais à Aix-Marseille, donc je pourrais en dire deux mots. On avait demandé aux parents de faire un puzzle à leur enfant. Alors, elle regarde comment procèdent les parents et elle regarde sur quoi l'attention de l'adulte et de l'enfant est centrée dans la réalisation d'une tâche. Et elle montre que dans la famille de type A, on est plutôt centré sur la bonne réponse, le résultat, la performance, la réussite rapide, quand dans les familles de type B, on est plus centré sur l'enseignement de stratégies efficaces, la compréhension, l'amélioration du fonctionnement mis en œuvre. Ça va, ça ? Dans un cas, la réussite, dans un cas, la compréhension. Dans un cas, le résultat immédiat, dans un cas, le résultat différé, mais efficace à long terme. C'est clair ce que je dis ? Quand on les regarde faire, guidage très directif dans les familles de type A, peu de stimulation de la recherche de l'enfant, indique la marche à suivre, donne les réponses, sont peu patients, font souvent à sa place, fournissent beaucoup de feedback, et dans ce cas-là, la réussite termine l'interaction. C'est fini, c'est bien, va ranger. Dépêche-toi de finir, comme ça tu pourras aller jouer. Ça, on l'entend. Hein. Et dans les familles de type B, un guidage souple, une incitation de l'enfant à bien observer, à bien mémoriser les informations importantes, à prendre son temps, à anticiper le résultat, à planifier ses actions. On laisse aller l'enfant le temps de se tromper, de faire des erreurs. Les parents ne font pas à leur place. Ils fournissent beaucoup de feedback positif, font expliquer les réussites et les échecs, font extraire les règles. Si on reprend ma question en termes de contrôle, dans un cas, ce sont les parents eux-mêmes qui contrôlent l'activité de l'enfant, de bout en bout. Dans l'autre cas, ce sont les parents qui laissent la plus grande part de contrôle à l'enfant. Illustration. Et ça, je parle d'une expérience que nous avons faite dans notre laboratoire. Famille, pardon, je suis allée trop vite. On a observé des mères et des pères qui font réaliser... Je vais trop vite, c'est ça ? J'aurais pu commencer par là. Alors, comment les parents s'y prennent-ils ? Comportement observé, on défait le puzzle et on dit au gamin, allez, vas-y, refais. L'enfant essaie tout seul, il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas faire, il n'en a jamais fait. L'adulte corrige en disant, non, c'est pas là, c'est là. Prends la tête de la poule et mets-la là. Mais non, pas comme ça. Allez, passe. Et il prend et il fait. Il faut que la tête soit droite. Et lorsque l'enfant est en difficulté, on lui dit, mais fais un peu attention. Caricatural, trop rapide, mais ma mère. C'est pour ça que je veux pas que ça soit sur Internet. Ma mère. Mais non, pas comme ça, pop, 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 et voilà. Et le puzzle est fait. Bien fait, vite fait, réussi. Famille de type B, vous, asseyez-vous confortablement. Et je me moque pas, hein. C'est si les instincts de maternelle imitaient ce comportement, on aurait... Donc le puzzle n'est pas défait. Je finis pas ma phrase. Et on dit, regarde bien. Tu vois ce puzzle, on va le démolir. Les morceaux seront tout mélangés et toi, tu devras le refaire. On donne un but à la tâche, on explique ce qu'il va falloir faire. Regarde bien. Maintenant, regarde l'image. Qu'est-ce que tu vois ? Un tally-tally-tafter. Très bien, un tracteur. Et qu'est-ce que tu vois d'autre ? Où sont les poussins ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et la poule ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Et c'est dommage, il vous manque l'image. Mais c'est pas grave, vous imaginez. Elle est arrêtée ou elle marche ? Dans quelle direction ? Donc une description de l'image, avant de défaire. Quelle couleur vois-tu ? Qu'est-ce qui est bleu ? Où est le bleu ? Où est le vert ? On cache. Tu peux me dire comment c'est ? Il n'y a plus l'image. Ok. Et là-bas, tu te souviens qu'est-ce qu'il y a ? Et là, et là, et là, et là, et là. Ok. Allez, maintenant, on va tout défaire. Mais attends, avant qu'on défasse, comment tu vas faire ? Par où tu vas commencer ? Et après, c'est une bonne idée. Les coins, c'est génial. Les bords, c'est super. Ah oui, tu préfères commencer par faire la poule ? C'est une bonne idée aussi. On va commencer par la poule. La tête, le corps, les pattes. Ça va ? Bon, allez. D'abord, tu vas appeler les poussins. Après, tu vas mettre le prêt. Ok, c'est bien. Le poussin, il est là, dans le prêt. Et ça parle, et ça met du mot, et ça parle, et du lexique. Vous l'avez entendu le lexique là ? En haut, en bas, à droite, à gauche, commencez. Devant, derrière, dessus, dessous, blablabla. Bla, bla. Non, tu lui as mis la tête en bas là. Donc là, ma mère, elle fait... Tourne-le. Encore. Voilà, c'est bien. Ok ? Lorsque l'enfant est en difficulté, mise en place d'un tour de rôle pour réduire la complexité du problème et éviter le découragement. J'en mets un, à toi de mettre le suivant. Ou bien, j'en enlève qu'un, remets-le. J'en enlève deux. Remets-le. J'en enlève 3. Remets-les. J'en enlève 4. Ça va ? Ok. Synthèse. Un guidage qui vise la réussite immédiate dans un cas, mais ne vise pas la compréhension, l'enseignement de stratégies efficaces, la compréhension. Dans notre laboratoire, immédiatement après que la mère avait résolu le puzzle avec l'enfant, On faisait sortir la mère pour faire pleurer l'enfant et on lui donnait un puzzle aux mêmes formes mais avec un dessin différent. Pas de transfert. Puisque la centration était sur la surface de la tâche, la poule, les poussins, on lui donnait Blanche-Neige, incapable. En revanche, puisque l'adulte contrôle est fait à sa place en cas de difficulté, et si l'aide est efficace pour permettre à l'enfant de réussir, elle ne l'est pas pour atteindre un apprentissage. Et donc, il est incapable de faire tout seul quand il est laissé seul. Dans les familles de type B, comme le guidage est centré sur la compréhension de la tâche, l'enseignement de stratégie efficace et le contrôle par l'enfant, quand on leur propose un autre puzzle, comme ils ont plus d'indications sur les stratégies employées, etc., eh bien, ils sont capables de transférer d'un puzzle à un autre. Une aide à la planification, vous voyez comment les parents incitent à prendre l'information, c'est ça planifier, hein, de manière exhaustive, à mémoriser, à organiser l'action, à verbaliser les stratégies. Ici, pour moi, on a un modèle de pédagogie en individuel qui me paraît totalement transposable à l'école. J'y reviendrai par la suite. Certains enfants apprennent très tôt les capacités et les stratégies qui sous-tendent l'autorégulation et sont donc capables, dès leur entrée à l'école maternelle, d'auto-réguler leurs apprentissages. C'est cela que les maîtresses reconnaissent comme ayant les compétences du bon élève. C'est pour ça qu'elles sont critiques. Et d'autres ont besoin que l'école leur enseigne ses capacités. Les enfants de 3 à 5 ans de milieu populaire sont... C'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont étudié toutes les recherches menées dans le monde entier sur les élèves de 3 à 5 ans. Ils sont américains, certes, mais on trouve ces données partout. Ils sont moins capables de reconnaître les lettres de l'alphabet, de compter jusqu'à 20, d'écrire leur prénom, de lire ou de faire semblant de lire des livres que leurs congénères favorisaient. Ces difficultés précoces présagent des disparités dans le développement du langage ultérieur, le développement cognitif, la réussite en lecture et la réussite scolaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas une recherche, mais on prend une question de recherche, par exemple, quelles sont les différences avérées entre élèves de milieu populaire et élèves de milieu favorisé qui ont été menées. Et on va étudier toutes les recherches qui ont été correctement menées avec les résultats. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas soi-même, mais on fait une analyse de toutes les recherches. Et par exemple, sur la compréhension en lecture en cycle 2, on trouve peu de recherches qui ont été menées proprement. Donc on peut faire une méta-analyse sur 70 recherches mondiales qui ont fait une étude là-dessus, sur les effets des programmes par exemple. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de balayer tout un tas de recherches et pas une recherche précise. Pourquoi ces différences ? On va s'intéresser maintenant aux familles... Oui. Pourquoi ces différences ? On en est là. J'adore le texte qui va suivre. Plutôt que de croire, c'est Art et Risley qui écrivent ça en 2003 dans un texte qui s'appelle « The Early Catastrophe ». Les 30 millions de mots, le gouffre de 30 millions de mots à 3 ans. J'ai été très très ébranlée par cette recherche que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Peut-être c'est pour ça que j'en parle. Mais voilà comment ils ont titré ils ont introduit cette recherche. Plutôt que de croire aux forces de l'hérédité, nous avons décidé d'entreprendre une recherche qui nous permettrait de comprendre les trajectoires développementales différentes. J'ai parlé tout de suite du contrôle de l'autorégulation. Ça suffit pas. Ça suffit pas à expliquer pourquoi un manque de connaissances scolaires. Maintenant, je descends sur les connaissances scolaires. Est-ce que je me fais comprendre ? J'ai passé trop vite là-haut. Ok, donc j'ai basculé. Je parlais d'autorégulation, maintenant, avec ma méta-analyse, je m'interroge plus sur les connaissances spécifiques, plus trop les compétences générales. Ça va ? C'est plus clair ? Et voilà la question qu'il pose. Art et Risley ont été à l'origine, en tout cas, ont beaucoup suivi le projet d'éducation compensatoire aux États-Unis qui a commencé dans les années 60 et qui s'appelle Head Start, début de la tête. C'était un programme d'une grande envergure où on voulait essayer de réduire les inégalités sociales, où on a scolarisé les élèves de milieux populaires bien plutôt que les autres, etc. Et les résultats de cette expérience, qui a coûté un argent terrible, ont été très décevants. Et donc on a beaucoup cherché à comprendre pourquoi, quand on enrichissait l'environnement des élèves de milieux populaires très précocement, pourquoi est-ce que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Art et Risley font partie de ce grand mouvement. Et en 1995, ils ont fait une étude mais qui est tellement belle que je vais vous la raconter. Et voilà comment ils la commencent. Plutôt que de croire aux forces de l'hérédité, et je vais encore arrêter ma phrase, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, un certain nombre de chercheurs ont dit, voilà, ça fait 35 ans qu'on donne plus à ces élèves de milieu populaire Bien maintenant, il faut reconnaître la réalité. Les enfants de pauvres sont moins intelligents que les enfants de riches. C'est comme ça. C'est génétique. Les riches sont intelligents, les pauvres sont inintelligents. Et voilà. Et ça s'appelle the curve bell, la courbe normale. C'est normal. Et donc, il y a toute une mouvance politique qui a bataillé pour dire, mais arrêtons ça. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Je pourrais vous montrer les données de ma thèse à ce propos, mais peu importe. Et donc, eux font partie de ce mouvement, ainsi que Brunner, Bornfernbrunner, plein, qui ont vraiment dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas une question d'intelligence, c'est encore, et on y revient, une affaire de facteurs environnementaux. C'est beau ? Alors, maintenant je vais la finir ma phrase. Plutôt que de croire aux forces de l'hérédité, nous avons décidé d'entreprendre une recherche qui nous permettrait de comprendre les trajectoires développementales différentes. Nous nous sommes rendus compte que si nous voulions comprendre quand et comment les différences développementales de trajectoire commencent, il nous fallait savoir ce qui se passait à la maison, au tout début du développement langagier. Et là, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont pris 42 familles, milieu favorisé, milieu moyen, milieu populaire, et ils les ont suivies. Ils les ont enregistrés une heure par mois pendant 2 ans et demi. Du moment où l'enfant a eu 7 mois jusqu'au moment où il a eu 7 ans. Et ils ont eu 1318 heures d'observation. Ils avaient donc, je l'ai dit, très favorisés, 13 familles, milieu moyen 10 familles, milieu populaire 19 familles. Il n'y a que moi que ça extasie, je trouve ça génial. Et alors maintenant, et ils ont fait un pré-test aux parents. Un pré-test de vocabulaire pour adultes. Alors là, je vous le montre pour enfants, vous le connaissez peut-être, c'est le Peabody. On dit à l'enfant, il se cache, et il faut qu'il désigne la bonne image. Il dort, et il faut qu'il désigne la bonne image. Ça va ? Bon, pour l'adulte, ça ressemble à ça. Il y a 46 items. Donc barrage, méandre, tsunami, cascade. Montre-moi la cascade. C'est beau ? Et voilà. The early catastrophe. Sous vos yeux ébahis, le tsunami. On va y aller tranquille. Au pré-test, sur le Peabody, 46 items, les parents de classe favorisée obtiennent 41 points sur 46. Les parents de milieu moyen obtiennent 31 points sur 46. Les parents de milieu très populaire, dans cette étude, 14 sur 46. On est d'accord, hein ? Et c'est possible qu'ils ne soient pas francophones d'origine, anglophones d'origine. En attendant, 14 mots sur 46. On regarde la taille du vocabulaire par heure, combien de mots par heure sont prononcés par les parents. Vous imaginez le travail, là ? 2000, regardez bien, hein. Combien sont prononcés par les parents et comment sont prononcés par les enfants quand ils ont 3 ans ? 2000 mots pour les parents, 1000 pour les enfants. 1400, presque la moitié, 700, 974, 500. Combien d'énoncés par heure ? Combien d'énoncés par heure ? 487, 310, 300, 223, 176, 168. Combien de mots différents par heure ? 382, 251, 167. Et ça pendant 3 ans, toutes les heures. The early catastrophe. Je suis bien d'accord. Mais là, on est quand même avec des enfants de 3 ans. Donc, le corps, ok, par exemple.
Non, je pensais que c'était de 7 mois.
Ça, c'est sur les heures. Oui, mais...
De 7 mois, 3 ans.
C'est juste. Mais en tout cas, le contact corporel, il s'arrête à un moment et on se met à parler. Et là, on voit les effets. Donc, si jamais... je suis d'accord. Hein, alors là, franchement, je pense qu'ils n'en ont absolument pas tenu compte. C'est dommage, j'ai enlevé ça. Parmi ces familles, il y avait des familles afro-américaines et puis des familles hispanophones, etc. Mais je ne sais plus combien. Et en fait, ils étaient répartis dans toutes les catégories. Donc, mais vous avez raison de parler de ça. Sur la quantité équivalente, c'est vraiment ça. Hein. C'est que dans nos civils, on parle et on répond hein, dans la vie. Donc, en fait, c'est pour ça. Alors, ben voilà, vous voyez quand même... attendez, parce que je... Voilà. On regarde le langage des enfants en divers fortement selon le milieu selon le milieu social, le nombre de mots de vocabulaire cumulés de 0 à 36 mois, vous voyez qu'en entrant à l'école maternelle, eh bien, il y a un écart très important. Ça va ? Puis alors après, ils font une extrapolation en disant, ben voilà, si ça c'est le vocabulaire des enfants. Puis là, c'est le nombre, ils estiment le nombre de mots adressés à l'enfant entre 0 et 48 mois. Et puis on voit que ben, y en a 50 millions chez les uns et seulement 15 millions chez les autres. Alors, les familles diffèrent immensément du point de vue de la quantité d'expérience avec la langue, de la nature et de la qualité des interactions qu'elles proposent. Je réponds à votre question tout de suite. Ces différences d'expérience précoce sont fortement corrélées avec le développement langagier à 3 ans. 86 à 98% des mots enregistrés dans le vocabulaire de l'enfant sont des mots qui ont été aussi enregistrés dans le vocabulaire des parents. Au point qu'ils disent, voilà, quand nous entendons les enfants jouer, ils nous semblent entendre leurs parents. Quand nous les regardons jouer avec leurs poupées, ils nous semblent les voir dans le futur avec leurs propres enfants. Ce clonage, évidemment, hein, le langage s'apprend par imitation, en tout cas dans les familles, il s'apprend pas par enseignement, comme à l'école, on y reviendra. Donc, c'est pas étonnant de voir que les enfants parlent comme leurs parents. Mais, et c'est la réponse à la question que vous me posiez, l'expérience langagière des enfants ne diffère pas seulement en termes de nombre et de qualité de mots entendus, mais les données montrent aussi des différences sur la nature des interactions, feedback d'encouragement, feedback d'interdiction ou de découragement. En moyenne, j'adore, ce calcul, il me fait trop rire, un enfant de milieu favorisé entend 32 encouragements, 5, ils disent, désencouragements ou interdictions par heure. Soit 6 encouragements pour une interdiction. Rappelez-vous le travail de cuisinier, hein, qui disait feedback positif dans un cas, feedback négatif dans l'autre, hein, vous vous souvenez ? C'est la même chose, hein. Bon, alors après, ils se mettent à multiplier et tout. Un enfant de classe moyenne entend 12 encouragements et 7 interdictions par heure. Et un enfant de milieu populaire, 5 encouragements et 11 interdictions. C'est inversé. Donc, oui, bien sûr que là, plus injonctif, plus des phrases plus courtes quand on interdit plutôt que quand on discute, quand on réfléchit. Une variabilité interfamiliale extrêmement importante dans les milieux populaires. Donc, la recherche de Hart et Risley, elle a eu ce mérite de réveiller un peu l'opinion en se disant « Ouf, là, il y a du travail. Si on veut compenser les inégalités sociales, là, on a un vrai travail sur le versant de la quantité de connaissances langagières de vocabulaire. » Mais, et cette recherche de Rodriguez, Tamis Lomonda, de 2011, montre qu'il y a une véritable variation entre les personnes de milieux populaires. Et eux, ils ont fait 1515 familles de milieux populaires qu'ils ont suivies tous les ans. La recherche, si vous arrivez à la lire, elle est mais magnifique. Ils les ont suivies dans les familles. Ils ont fait des entretiens avec les parents. Ils ont regardé les parents jouer avec leurs gamins. Ils leur donnaient du matériel, un matériel différent selon l'âge des enfants. Ils ont regardé comment les enfants étaient suivis par les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. dans les familles de milieux populaires, 1500. Et ce qu'ils montrent, alors je sais pas si je l'ai mis, une énorme variation. C'est-à-dire que, y compris dans les milieux populaires, on a des familles qui ont, avec leurs enfants, une manière d'éduquer, etc., qui s'approchent, mais vraiment d'autres familles de milieux très favorisés, puis inversement pas. En tendance, on peut dire qu'il y a un effet du milieu, mais attention à pas généraliser ça en disant élève de milieu populaire, donc. Grande méfiance. Parce que justement, au sein même des milieux populaires, on a des familles qui proposent un langage, etc., totalement différent de ce que je viens de présenter. Donc attention à ce travail sur les moyennes, qui nous fait conclure des choses très souvent erronées. C'est aussi un peu votre commentaire qui me fait rajouter ça. Attention aussi à pas évaluer trop tôt les performances des élèves quand on sait pertinemment qu'il n'y a pas eu enseignement de ça. Association forte entre environnement d'apprentissage et la qualité du vocabulaire. Donc dans cette recherche-là, vraiment, si vous avez l'occasion, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse, la recherche. Je l'ai chez moi. OK. Donc, ça, c'est la conclusion. Et ça, je crois qu'il faut pas... J'insiste... Ça va être ma conclusion avant la pause. Je disais, attention à pas minorer auprès des enseignants les facteurs personnels des enfants. Parce que c'est mortifère de pas reconnaître qu'ils ont face à eux des élèves qui présentent des facteurs personnels qui vont eux-mêmes les mettre en situation de difficulté. Je finis. Les expériences à la fois précoces et plus tardives, c'est-à-dire 0-4 ans, 0-3 ans, prédisent les compétences de l'enfant et expliquent ensemble plus d'un écart type dans la performance de l'enfant à l'entrée en école maternelle. Donc plus ils ont bénéficié d'expériences de qualité, plus ils vont à l'entrée à l'école maternelle présenter des performances élevées. C'est pas une fatalité. Tout ne se joue pas avant 3 ans, ni avant 6 ans. Ce qui dit bien que oui, face à eux, les enseignants vont avoir des élèves qui sont déjà des bons élèves, avant même d'être entrés à l'école, et que pour d'autres, leur rôle va être décisif.